coup pour les exécuter tous un par un. Ils ne pouvaient pas parler, mais parce qu'ils avaient la peau noire, ils ont présumé qu'ils étaient massalites.
Ces témoins restent anonymes pour préserver...
Radio G. www.radio-g.fr.
Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Auditeur de Radio G qui adorait les mélodrames avec un homme à l'ambition mue par un amour indéfectible pour une femme croisée 11 ans plus tôt, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, Alan Ladd et Jay Gatsby. Un homme fortuné, prêt à toutes les dépenses pour ranimer le faste d'une riche demeure qu'il vient d'acheter sur l'East Side. Cette demeure fait face à celle des Buchanan de l'autre côté du fleuve. Mais Jay Gatsby ne fait pas ça par hasard, car la femme de Buchanan, Daisy, autrement dit Betty Field, est une femme dont il est amoureux depuis la Louisiane, 11 ans plus tôt, alors qu'elle était riche et lui sans le sou, mais en uniforme de lieutenant en partance pour l'Europe. Mais cette histoire a tout du drame. Le prix du silence d'Eliot Nugent, c'est maintenant.
There's a rainbow round my shoulder and a sky of blue above. Oh, the sun shines bright, the world's all right, 'cause I'm in love. There's a rainbow round my shoulder and it fits me like a glove. Let it blow and storm, but I'll be warm, 'cause I'm in love. Hallelujah, how the folks will stare when they see.
Un homme entre dans un cimetière et se recueille sur la tombe de Jay Gatsby, 1896-1928. On l'apprendra un peu plus tard, mais il s'agit de Nick Carraway. La suite est une succession de témoignages qui s'intéressent à ce personnage étonnant qu'était Jay Gatsby, un très jeune pêcheur qui a su séduire un riche magnat du pétrole qui l'a accueilli sur son yacht et en a fait un de ses héritiers sans pour autant lui céder une somme conséquente. Plus tard, on apercevra Jay Gatsby, dit Gats, à un bal en Louisiane, avec son costume de lieutenant, dansant avec Daisy, riche héritière, amoureuse de lui, lui demandant de se marier, mais lui, sachant ses conditions modestes, lui proposant d'attendre son retour d'Europe. Cependant, Daisy ne l'attendra pas, se mariant avec Tom Buchanan, ses 30 millions de dollars et son collier estimé à 350 000 dollars. C'est donc un Jay Gatsby revanchard, de retour du front, qui a réussi après-guerre à faire fructifier les 5000 dollars hérités, qui vient acheter une demeure qu'il restaure à coups de dizaines de milliers de dollars. Maison qui fait face à celle des Buchanan. Mais quand on habite l'East Side, on ne peut pas inviter comme ça des propriétaires du West Side. Alors Jay Gatsby porte son dévolu sur le mouton noir de la famille Buchanan, c'est-à-dire Nick Carraway, un homme qui se rêve écrivain, pour jouer l'intermédiaire. La rencontre entre Daisy et Jay a lieu. Elle est émouvante, elle remue le passé, elle accouche d'une tension sourde avec le mari de Daisy. Mais il est dit dans cette histoire que cette rencontre sera dramatique et arrivera à son paroxysme le long du Wilson Garage.
On rainy days. Jay.
Daisy.
I'm awfully glad to see you again, Jay. We've met before, Nick, but not for a long time.
11 years.
Louisville.
more.
Nick, would you mind running a few errands with me?
Yes, I would.
Even for a ride in my brand new roadster? I just got it this morning.
I wonder why.
Then see me to the door. You're acting like a novel stuffed shirt. Bless you, my children.
Adapté fidèlement Gatsby le Magnifique, le roman de Francis Scott Fitzgerald tient de la gageure. Aussi, le film d'Eliot Nugent est-il très librement inspiré de son intrigue. Eliot Nugent est un ancien modeste acteur dont le fait d'arme est d'avoir été dirigé par William Dieterle dans Le Dernier Vol. En tant que réalisateur, il fait une honnête carrière dont les points culminants sont la comédie romantique Si Adam avait su, avec Henry Fonda et Olivia de Havilland, et le pastiche de films noirs, La Brune de mes rêves, qui inaugure une trilogie parodique avec Monsieur Belvedere. Ici, il dirige joliment Alan Ladd. L'acteur de nombreux westerns paraît bien à son aise en arriviste fortuné. On a cependant du mal à croire en cet amour infini ressenti pour Betty Field, plus convaincante dans Des souris et des hommes ou dans L'homme du Sud. Peut-être est-ce dû à la présence à ses côtés de l'impertinente Rose Hussey, l'amie de Daisy, amoureuse, et on la comprend, de MacDonald Carey, identique à l'écran comme dans la vie, puisque poète à ses heures perdues, perdu dans l'alcool. Lui joue merveilleusement bien l'intermédiaire entre Gatsby et la famille Buchanan. Mais le nœud gordien de l'intrigue se situe au garage Wilson, où le mari aux abois tient sa femme enfermée à clé dans sa chambre. Cette femme, c'est l'émouvante Shelley Winters, de La Nuit du Chasseur. Une femme qui a des aventures avec d'autres hommes et qui rend son mari mélancolique. Lui, c'est Howard Da Silva, l'un des fugitifs des amants de la nuit de Nicholas Ray. Et c'est lui qui tient les rênes de la destinée d'Alan Ladd dans ce drame.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Dans la lignée des sagas victoriennes ou d'un Rebecca de Daphné du Maurier, Gatsby le Magnifique raconte l'irrésistible ascension d'un homme mu par une motivation qui le dépasse. Ici, Eliot Nugent et ses scénaristes réduisent l'intrigue et en font 1h30 enthousiasmante malgré quelques temps morts. Ce qui est intéressant n'est pas tant le climax des retrouvailles entre Jay et Daisy à la moitié du film, que le lien naissant entre ce même Jay et Nick Carraway. Au début du film, c'est lui qui se recueille sur la tombe de Jay. Au premier tiers, c'est lui qui est utilisé par Jay d'une façon pas très classe. Pourtant, il va y avoir un lien qui se crée à partir du moment où la véritable personnalité de Jay se découvre après un terrible accident de voiture. Car on ne peut pas, dans ce film, douter de la sincérité d'Alan Ladd. Et le grand point fort du film d'Eliot Nugent, c'est d'utiliser le personnage de Betty Field en pleine confusion, passant par divers états sous le regard d'Alan Ladd, lui à une fenêtre, à l'extérieur de la demeure des Buchanan, pendant que se décide à l'intérieur son propre avenir. C'est là que Nick Carraway se réveille. On observe les trajectoires similaires, quoique foncièrement et paradoxalement différentes, des deux hommes. Un qui est né pauvre et qui a cru qu'il lui fallait s'élever pour s'installer dans un monde qui n'est pas le sien, et l'autre qui est né, mais ne s'y est jamais fait. On notera aussi que Betty Field est vraiment à la hauteur dans cette scène, avec ses errements et sa prise finale de décision. Mais le prix du silence est un drame, et la date de la mort de Gatsby, annoncée dès le début du film, est là pour nous le rappeler. Le prix du silence d'Eliot Nugent, c'est un drame sur l'ascension et la chute d'un homme aux motivations presque légitimes. Et c'est en DVD ou Blu-ray chez Elephant Film dans la collection Cinéma Masterclass. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau film de genre.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
Ah, to be continued.
Goodbye, Rick.
Your love, your love.